Shuriken. Allô, Danfort? Il y a un problème. On a volé le cerveau de Guillaume. Non, il n'est plus dans le crâne. Je viens d'ouvrir. Que faire? Bien, je vais chercher à attendre. Bon, d'accord.
Et il retourne dans la salle d'opération.
Mettez-moi ça dans le frigo.
Et il est retourné à son bureau. Jours plus tard, Madame de Flory téléphone à Galia.
Allô? J'aimerais parler à Monsieur Galia. Je suis Madame de Flory. C'est très urgent. Merci. Allô, Galia? Oui, c'est Madame de Flory. Excusez-moi de vous déranger. Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir me voir. Il s'est passé une chose horrible. Bien, je viens de suite. Merci, monsieur.
Chez elle.
Bonjour, c'est la bonne. Je suis attendue par Madame de Flory. Je suis Galia Gap. Bien, monsieur, entrez. Madame est au salon. Entrez, monsieur. Il entre. Madame de Flory lui dit, venez vous asseoir. Il s'assoit.
Elle lui dit, on a volé le corps de Guillaume. Sa tombe a été profanée. On l'a pris.
Galien est surpris. Mon Dieu, et qui a fait cette chose horrible?
Je suis effondré. La police n'a aucun indice. Vous vous rendez compte, un petit village si loin de tout. Je veux absolument qu'on m'en rende mon fils. Mon Dieu, que faire?
Galien lui dit, calmez-vous, je ferai tout pour vous aider. Moi aussi je tiens à Guillaume, il ne veut pas que l'on touche à son cadavre. Je vais prévenir le ministre de l'Intérieur. Il se lève et lui dit, il faut que je vous quitte pour me mettre en chasse.
Elle lui dit, oh oui, merci.
Et elle le raccompagne.
Au revoir, monsieur.
Une fois dehors, il réfléchit tout en marchant.
Mais je me souviens, Danfort m'avait dit qu'il l'avait cru que je lui avais dit de prendre le cerveau de Guillaume.
pour plus tard, de le conserver.
Une fois arrivé dans son bureau, il téléphone pour faire venir Danfort.
Allô, pouvez-vous dire à M. Danfort de venir me voir de suite? Merci. Entrez, c'est Danfort. Vous m'avez demandé, monsieur? Oui, venez vous asseoir.
Bien.
La mère de Guillaume m'a dit que la tombe de son fils a été violée. On a volé le cadavre. Vous êtes au courant?
Non, je ne vois pas.
Vous en êtes sûr?
Oui, bien sûr.
Je me souviens d'une chose, c'est que nous avons fait enlever le cerveau de Guillaume pour le mettre congelé, pour plus tard.
L'on ne sait jamais.
D'un fort soupir, lui dit.
Vous parlez de ça, je me souviens plus de tout.
Galien lui dit, vous n'avez pas cherché à prendre le cadavre pour des expériences?
Non, absolument pas.
Vous êtes bien sûr?
Oui.
Attention, je suis l'élu. Danfort rougit et lui dit,
bien sûr.
Galien lui dit, bien, puisque vous ne savez rien, je vous laisse. Je vais chercher ailleurs. Danfort lui dit,
moi aussi, je vais chercher de mon côté.
Et il se lève.
Je peux disposer?
Oui, bien sûr.
Et il quitte le bureau.
Une fois dans son bureau, Danfort téléphone à Ricard.
Allô? J'aimerais parler à M. Ricain. Je suis Danfort. Allô, Ricain? C'est Danfort. Venez tout de suite. Que se passe-t-il? C'est au sujet de notre affaire. C'est très urgent. Très urgent.
Bien, j'arrive.
Très bien, je vous attends.
Une heure plus tard, il est dans le bureau de Danfort,
qui lui dit
« Je crois savoir où est le cerveau de Guillaume de Flory. »
« Ah, oui. »
« C'est l'élu qui me l'a dit. C'est lui,
à la mort
de son ami, qui nous avait demandé de conserver son cerveau. Et c'est vous qui l'avez dans le congélateur. » Ricain lui demande « Vous avez bien fait d'en parler à l'élu. » Ce n'est pas moi qui lui en ai parlé, mais lui. La mère de Guillaume l'a appelé à cause de la tombe et du corps. L'élu s'est souvenu qu'il m'a convoqué pour me demander si je n'avais pas le corps de Guillaume. J'étais obligé de lui dire que non. Il me l'a demandé plusieurs fois en disant qu'il était l'élu. J'ai eu honte, c'est très grave. De mentir à l'élu.
Ricain lui dit, cela prouve que l'élu est prêt à jouer son rôle et qu'il le prend au sérieux. C'est une très bonne chose, non?
Oui, peut-être, mais Il faut absolument en finir avec cette histoire de pape et de sanctuaire. Nous n'aurions jamais dû nous laisser entraîner dans ce genre de choses. Bon, vous allez me rechercher ce cerveau et le mettre prêt. Ensuite, vous allez me prendre le cadavre du pauvre Guillaume pour me le mettre près de la tombe. Requin lui dit, le cimetière risque d'être gardé. Vous avez raison, il ne faut pas de scandale. Mettez-le devant une église ou dans une église. Vous le mettez dans une caisse avec une croix pour que l'on voit que c'est un cercueil. Rangez-le bien, le cadavre, qu'il soit impeccable. Téléphonez-moi une fois que tout sera fini. Faites vite, comme nous avons perdu du temps. Vous allez réveiller le cerveau et lui passer les informations de ce que nous voulons qu'il fasse. Après, nous donnerons celle de son recevoir. Allez, vite!
Arriva à son laboratoire, dit à son personnel, « Vous allez nettoyer le corps, me le désinfecter, parfumer, etc. Après, vous le mettrez dans un cercueil vitré et le déposerez devant l'église de la Madeleine. » L'un des deux hommes qui apportait le corps lui dit, « C'est pas du travail, on lui dit d'amener un corps et après il faut le ramener. C'est comme ça. » Puis Requin va au congélateur. C'est une pièce où se trouvent des casiers avec des numéros. Il demande au responsable, un petit homme tout maigre, chauve, en blouse blanche. « Je veux le cerveau de Guillaume de Fleury. » L'homme se gratte la tête. « Non, là, ça ne me dit rien. Je vais voir sur mon registre. »
Il va à son bureau, qui est en formica blanc, où se trouve un clavier d'ordinateur, bien entendu.
Voyons, cerveau. Ah, voilà.
Vous dites Guillaume Fleury. Fleury Guillaume. Non, je ne vois pas. À moins que ce soit le 210 ou le 450.
Requin énervé lui dit, « Surtout ne vous trompez pas. Je ne veux pas le cerveau d'un tueur. Je serais mal vu. C'est pour en faire un pape. » L'autre regarde encore. Requin lui dit, « Je ne comprends pas. Vous notez pas ce que vous mettez ?» L'autre lui dit,
« Si, mais... là, c'est un peu spécial. Les autres cerveaux n'avaient pas d'importance. Ils étaient livrés comme ça. Des inconnus ramassés dans la rue, des SDF, des jeunes qui traînent. Une camionnette passe et hop, elle s'arrête et les embarque. Et on met le corps en morceaux pour prendre ce que l'on veut, ce qui nous plaît. Pas besoin d'y mettre un nom. Mais là, Requin l'a dit. Justement, pour une fois, il fallait y mettre un nom. Vous l'avez perdu ?
Non, c'est pas ça, mais il est fort possible qu'on les interchange, qu'ils soient interchangés.
Comment savoir? Un cerveau, c'est un cerveau. Tant qu'il ne marche pas, on ne sait pas qui il est. Trouvez-moi de toute urgence ce cerveau. Autrement, c'est votre cerveau qui va aller rejoindre les autres. Bien, monsieur.
Erika sort.
Une demi-heure plus tard, l'homme lui amène à son bureau dans une boîte en fer stérilisée ronde.
Voilà, monsieur. Vous en êtes sûr? Oui, monsieur.
Bien, allons le porter au labo B.
Arrivé au labo B, il pose la boîte sur la table du labo, l'ouvre,
il y a dedans un bout de chair congelée grisâtre. Rickin dit à ses collaborateurs,
bien, il va falloir réactiver ce cerveau,
lui mettre du sang.
Ils sortent le cerveau pour le mettre sur une plaque en métal. Ils le font avec des pinces.
Ils prennent les artères qu'ils branchent à de fins tuyaux qui amènera le sang dans l'artère et le cerveau sera irrigué de sang.
Dans sa du sang, l'on met l'ADN du donneur. Une fois que le branchement des artères ont été faites avec des pinces microscopiques, le tout vu sur microscope vidéo, l'on fait couler le sang dans le petit tuyau de PVC qui l'amènera aux artères. Petit à petit, l'on voit la chair du cerveau qui était grisante devenir rouge. Cette façon de donner du sang se fera constamment jusqu'à ce que le cerveau soit mis dans un corps. Là, c'est le corps qui donnera le sang au cerveau en soudant les artères du cerveau sur celui du corps. Maintenant que le cerveau est irrigué de sang, comme un moteur d'essence, il faut le réactiver, le mettre en marche. Pour cela, on le met au-dessous du cerveau, un rayon laser qui va le bombarder pour réveiller les nerfs du cerveau. Entre le rayon laser, le sang, tout est prêt pour que le cerveau se remette en état de marche.
24 heures sur 24, sans une seconde d'arrêt, le cerveau est bombardé de rayons laser et le sang coule constamment. Rickin a téléphoné à Danfort pour lui dire que le corps a été déposé devant la Madeleine et que le cerveau est en opération de réactivité.
Il y en a pour combien de temps?
Impossible à le savoir.
Le cercueil a été déposé devant la Madeleine à 2h du matin.
La police a été prévenue, a fait son enquête. Ils ont prévenu Madame de Fleury, qui a reconnu son fils. Elle leur a dit que le cadavre avait été volé. Le cadavre a été remis au cimetière et la police continue à chercher. Madame de Fleury dit comment on a retrouvé le cadavre de son fils à Gallien.
Qui a pu faire une chose pareille?
Il était endommagé.
Non, on me l'a rendu même nettoyé. Je ne comprends pas. Et même dans un très beau cercueil.
Gallien lui dit.
Je ne comprends pas.
Mais pas du tout.
Mais il se dit que ce doit être d'enfort pour faire une chose comme celle-là. Il n'y a que lui. Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec le corps? Arrivé dans son bureau.
Allô, j'aimerais c'est que vous puissiez dire à M. Danfort de venir me voir tout de suite. Merci.
Entrez.
C'est Danfort. Vous m'avez demandé, monsieur.
Oui, venez vous asseoir.
Je ne veux pas que vous touchiez au cadavre ou au cerveau ou à l'ADN de mon ami Guillaume de Fleury. Si j'apprends que vous avez fait quoi que ce soit sur ses restes, je vous mets à la porte de suite. Vous m'avez bien compris. On ne touche pas à Guillaume sans m'en demander l'autorisation. Je suis votre chef et je veux être obéi pour ceci. Je ferme les yeux pour beaucoup de choses qui pourtant ne me plaisent pas du tout. Mais pour Guillaume, je ne le ferai pas. Pas de mabouille sur son corps, sa dépouille. D'ailleurs, je me demande ce que vous défendez en faisant certaines choses aussi déplaisantes que je sais.
L'enfant lui dit, nos intérêts, rien que nos intérêts.
Gallien lui dit, eh bien, mes intérêts sont désormais liés à la préservation de Guillaume. Et je veux être désormais au courant de tout ce que vous faites et tiens à ce que vous faites soit légaux et moraux. Mes intérêts ne sont pas des intérêts immoraux. Je ne suis pas le président d'un groupe mafieux.
L'enfant lui dit, monsieur le président, je vous jure que nous ne sommes pas des mafiosos et que nous travaillons pour l'humanité. Pour ce qui est des restes de Guillaume, nous ne l'avons pas touché.
Gallien lui demande, qui alors?
Je ne sais pas, peut-être les Américains. Vous vous souvenez, vous savez que nous sommes infiltrés de partout dans notre groupe et que nous savons par qui. Les informations passent, il y a des vols aussi.
Gallien lui dit, je vous crois pas Guillaume, mais si j'apprends que vous m'avez menti, c'est fini de vous. Pour ce qui est des espions, au sein du groupe, il faudra nous en occuper. Faites aussi une enquête sur le corps de Guillaume. Qui l'a pris? Qui l'a rendu? Puisque ce n'est pas vous. Vous pouvez disposer.
Merci, monsieur le président.
Une demi-heure plus tard, Danfort est dans le bureau de Riquin et lui dit
« Il faut me jurer de ne jamais plus me parler de ce que nous faisons. Il y va de notre peau. L'élu m'a menacé. Et après la chose faite, pour faire taire les gens qui ont participé à cette opération, prise du corps, cerveau, etc., etc., il faudra malheureusement les congeler, si vous voyez ce que je veux dire. Il y va de notre vie. C'est la seule façon d'être sûr qu'ils ne parleront jamais. » Riquin lui dit, « Bien, ce sera fait. » Et où en est le cerveau? Il prend le sang, le garde et l'évacue, normalement. Mais rien pour les centres nerveux. Un jour, le cerveau donne des signes, des signaux. On accélère les rayons. On regarde les réflexes du cerveau. Où la chaleur inerte répond et reçoit des messages extérieurs de douleur, de température, de toucher. C'est le début de la conscience. Constamment, on lui envoie des messages primaires de température, douleur, toucher. Puis petit à petit, on lui envoie des signes de dialogue. Ah, oui, non, bobo, haine, M, en continu. Et en même temps que ces messages dialoguent, des messages primaires, pour qu'ils comprennent le oui ou le non. M, température douce. N, température polaire, etc., etc. Une fois qu'il a compris ces messages et réveillé son centre nerveux, cerveau, on lui pose des questions sur ce qu'il sait, ce qu'il aime, salade, voiture, musique, galien. Répond par aimer ou non. Ceci indéfiniment. Après avoir inscrit ce qu'il n'aimait pas ou aimait, on lui lance des noms comme biotechnique avec de la douceur pour qu'il comprenne que ces mots-là sont bons. C'est-à-dire avec une température très douce. ADN, galien, amitié, pomme de terre, poisson, tomate, chocolat, garçon, fille, droite. Tout ça, ça doit être bon pour lui, donc pour qu'il le comprenne, on lui procure de la douceur, c'est-à-dire une température douce. Et ceci est présenté d'une façon très intense, aussi dans le cerveau. Ensuite, pour aller plus loin, on lui met en plus d'une chaleur douce un produit qui détend, pour qu'il se sente bien. Ça défatigue les nerfs, décontracte, et on recommence jusqu'à ce qu'il réponde à chaque mot « bien ». Qu'est-ce qui est bon, que vous aimez, etc. Ce sont ces mots-là. Ensuite, on lui met des températures moins douces. Pour des produits, avec des produits qui sont moins bons, qui lui donnent une certaine tension nerveuse pour quand on lui pose des questions, qu'il réponde non. Comme guerre,
Amérique, juif, etc., etc. Poireaux, viande, lait. Puis, après un temps, on lui pose des questions négatives et positives. Au début, en changeant la chaleur, froid pour doux, pour non, doux pour oui. Après, on lui pose des questions où il dit aime ou non. Ensuite, sans chaleur, sans changement de climat, il doit répondre par oui ou aime, aime ou non, aux différentes questions sans filet. C'est-à-dire sans l'aide de changement de température. Après des heures et des heures, il a réussi à dire oui. On a réussi à lui mettre dans sa mémoire des goûts. Maintenant, il va falloir lui mettre la biographie du nouveau porteur. Comme il ne l'a pas encore, on continue à lui poser des questions au cerveau pour qu'il continue à fonctionner. Pendant ce temps, à Rome, les deux cardinaux français cherchent un cardinal qui pourrait faire l'affaire. Après avoir cherché, ils en trouvent un. C'est un Romain, Monseigneur Donetti. Il n'est pas trop vieux, 50 ans, grand, mince, distingué, fait plus jeune que son âge, cheveux châtains, visage noble. Issu d'une famille romaine et en plus parle le français à merveille, tout ce qu'il faut. Les deux cardinaux font une enquête sur lui, sur sa vie privée. Ni scandale, ni affaire financière, n'appartient pas à la mafia, sans aimer de tous, ou en tout cas n'a pas d'ennemis. Aime la musique, lecture, ses idées politiques sont de droite. Une fois qu'ils ont fait cette enquête sur lui, ils l'ont envoyé à Danfort pour lui demander s'il approuvait son choix. Danfort lui répond
« Oui, amenez-le en France, qu'on fasse tout ça. »
Le primat des Gaules a une idée. Il demande une audience à Donetti pour lui proposer de représenter l'Italie pour les cérémonies à la gloire du Saint-Curé d'Ars. Donetti accepte de le recevoir dans son bureau. Dans son bureau qui est au Vatican, car il est chargé des affaires sociales. Pour un homme de droite, c'est très bien. Va être reçu par Donetti.
va dégoulante. Venez vous asseoir.
Je vous écoute. Bien voilà, monseigneur, comme vous parlez merveilleusement bien le français et que vous aimez ce pays, j'ai pensé que vous pourriez représenter les cardinaux italiens. J'ai demandé l'autorisation au pape et il est d'accord. C'est pour les cérémonies en l'honneur du Saint Curé d'Ars. Donetti lui dit : Je vous remercie, cela me touche beaucoup. J'accepte avec joie. J'ai fait une partie de mes études à Paris et j'aime beaucoup votre pays. Oui, j'accepte avec joie. C'est pour quand ? Dans un mois, le 10, et je viendrai moi-même vous chercher à 10h du matin. Un avion privé vous mènera à Satelas, près de Lyon, puis une voiture vous conduira à Ars. Tout est prêt, une chambre à votre disposition, et pour les cérémonies, vous n'aurez pas de soucis à vous faire, je serai constamment près de vous. Et vous n'aurez pas d'allocution à faire, à moins que, Donetti dit, pour vous remercier, je dirais bien un petit quelque chose sur le curé d'Ars. Merci, votre seigneurie. Je vais vous faire parvenir les documents des déroulements de la cérémonie.
Elle se terminera à quelle heure ?
À 22h, car le soir, il y aura une petite représentation théâtrale sur la vie du Saint Curé d'Ars, jouée par les comédiens de la ville. Et un mois plus tard, le primat de Gaulle est venu chercher Donetti pour le mener à l'aéroport. Là, ils ont pris un avion privé jusqu'à Satelors. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.